Je veux juste vous consoler dans vos afflictions, si je peux. Il y a un verset, je vais regarder un verset au début de 2 Corinthiens 1, mais je vais vous lire un verset en 1 Pierre 4. Un Pierre 4, verset 12, écoutez ce que dit la Bible. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange. » D'autres traductions disent « Ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? D'être dans la fournaise de l'épreuve ne doit pas être considéré comme extraordinaire. Alors, si ce n'est pas extraordinaire, ça veut dire que c'est normal, c'est ordinaire. C'est comme ça qu'on doit voir la fournaise de l'épreuve. Et parfois, dans la vie, il y a quand même des choses qui nous choquent à chaque fois. Et même après 30 ans avec le Seigneur, quelque chose arrive et on est encore surpris, mais pourquoi ça m'arrive? Non, ne le regardez pas comme une chose extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc tout de suite ce lien avec le Seigneur. Et donc dans cette optique de la souffrance et ne pas être surpris par la souffrance, il nous est important de considérer nos souffrances d'une façon biblique. Et en 2 Corinthiens chapitre 1, Paul écrit ceci, je vais vous lire le texte. Il dit, je commence au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos, quoi ? Nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous, nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Voici la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de raisons dans la Bible pour la souffrance. Et une citation qui m'a beaucoup marqué il y a quelques temps, c'est un pasteur parisien du 19e siècle qui s'appelait Horace Monod. Et il a dit ceci, « De tous les châtiments divins qui peuvent atteindre les pécheurs, les plus redoutables sont les afflictions qui demeurent sans fruit. » Imaginez avoir une affliction et il n'y a pas de fruit. Ça ne vous fait aucun bien. Lui, il dit, ça c'est le plus redoutable des afflictions que Dieu puisse donner. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que quand Dieu donne des afflictions à ses enfants, ce n'est jamais sans fruit. Il y a toujours une suite à ces afflictions. Et quand on fouille dans la Bible, nous trouvons plusieurs raisons pour la souffrance, plusieurs fruits, si vous voulez, que Dieu parvient à en tirer de nos afflictions. Mais voici un verset qui donne beaucoup de joie à tous ceux qui souffrent. Il dit, regardez encore le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Vous avez peut-être remarqué dans la suite qu'il y a deux mots qui sont utilisés plusieurs fois. Ce sont quels mots? Un commence avec « A » et c'est le mot « affliction » et l'autre commence avec « C » et c'est le mot « consolation ». Consolation, c'est le mot grec « paraklesis », le mot associé au nom donné au Saint-Esprit, qui est notre consolateur. Mais notez cette phrase, « Il nous console dans toutes nos afflictions. » Alors, juste quelques remarques par rapport à cette phrase. D'abord, notez le rapport entre la consolation et l'affliction. Quel est le rapport? Est-ce que les afflictions viennent d'abord? Un peu comme les cars ou les wagons d'un train. Il y a l'affliction qui passe, et puis un peu plus tard, il y a la consolation qui passe. Est-ce que ça décrit cette relation entre les deux? Oui ou non? Est-ce que c'est une remarque chronologique? Vous êtes affligé et puis plus tard vous êtes consolé. Bon, c'est vrai qu'au ciel, nous serons consolés à jamais. Mais regardez ce que dit le texte. Il nous console dans toutes nos afflictions. Donc la première chose à noter, c'est que c'est la consolation, pas l'absence d'affliction. Si on imaginait les deux, la relation ne serait pas deux wagons qui sont attachés l'une à l'autre. Ce serait plutôt, je ne sais pas, deux choses qui sont intermêlées, l'une cachée dans l'autre. L'affliction, consolation. Et dans toutes nos afflictions, se trouve une consolation. C'est-à-dire, ces deux choses arrivent au même temps. Ces deux expériences qu'on vit au même temps. En tant que chrétiens, nous pouvons être à la fois affligés et consolés. Vous dites, c'est bizarre ça. Oui, c'est la vie du chrétien. Affligé et consolé au même temps. Et la consolation n'enlève pas l'affliction. Mais grâce à Dieu, l'affliction ne repousse pas non plus la consolation. C'est dans l'affliction que nous sommes consolés. Les deux sont concurrentes ou concourantes. C'est-à-dire la consolation n'est pas l'absence des afflictions, mais se trouve au même temps. Il est en train de nous consoler dans toutes nos détresses ou dans toutes nos afflictions. Il continue, les afflictions continuent ici, simultanément que les afflictions que la consolation. Dieu désire pour nous une certaine précarité et il veut que nous vivions tous les jours dépendants de lui. J'appelle ça la précarité prédestinée. Dieu vous a prédestiné à la précarité. Et c'est difficile en tant que chrétien, parce qu'on veut une situation stable, on veut ressentir que les choses... Voilà, finalement, je peux souffler. Parce que là, je sais que maintenant, les choses vont mieux. On cherche toujours de Dieu un CDI. Il refuse de nous le donner. Et c'est toujours CDD, mais les CDD durent un jour. Hein, voilà, je donne la grâce pour aujourd'hui. Ah, mais Seigneur, quand même. Eh non, demain, ce n'est pas encore là. Demain, mais je ne sais pas comment ça va terminer demain. Mais Dieu veut, il faut qu'on arrive à la situation où nous acceptons cela. Parce que sinon, nous vivrons une vie très frustrée. Et on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que voilà, j'ai raté quelque chose? Pourquoi je ne suis pas béni? Peut-être vous êtes très béni. très béni. Mais Dieu désire cette précarité pour vous garder dépendant de lui. Et dépendant de quelle façon? On peut dire en tant qu'employé, nous sommes dépendants du patron. Mais bon, on a besoin du chèque, etc. Mais pensez à un enfant qui a besoin de sa mère. C'est tous les jours. Je pense à Simeon, il ne peut pas dire, bon, je te vois dans une semaine. Voilà. Il est vraiment dépendant d'heure en heure à sa mère, surtout, pour la vie. Et c'est ce que Dieu désire de nous. Et il y a une certaine maturité chrétienne où nous arrivons à accepter cela. Accepter la précarité comme quelque chose de divin, comme quelque chose de voulu par Dieu. Et en regardant derrière, de voir voilà, les façons que Dieu nous a guidés jusqu'ici, et d'accepter que je ne vois pas devant, mais j'ai un Dieu. Et la confiance donc devient relationnelle. Comme un enfant, on dit, allez, monte dans la voiture, il monte dans la voiture. Il se demande, ah mais, voilà, tu as Waze, tu connais le chemin, tu as ton GPS, tu sais où on va, est-ce que tu as assez d'argent pour le péage? Et si on tombe en panne, un enfant ne se pose pas ces questions. Et ce n'est pas parce qu'il a toutes les réponses non plus. La confiance d'un enfant est basée sur une relation. Il connaît ses parents et donc il fait confiance à ses parents. Et c'est ce type de confiance que Dieu veut pour nous. Pas parce que, ah oui, je sais exactement ce que Dieu va faire. On va tourner à droite et puis à gauche, on va rester comme ça pendant 15 jours et puis ça va. Non, on ne voit pas la route. Mais la confiance que nous avons est relationnelle. C'est basé sur le caractère de Dieu. C'est pour ça, dans la foi, il y a toujours un élément d'inconnu. Et il y a toujours un élément d'inconnu, même par rapport aux questions de ce que Dieu fait, etc. Parce qu'il veut que notre confiance soit d'abord en lui, pas dans son plan. On n'a aucune confiance dans un plan, mais dans une personne. Et donc c'est une précarité prédestinée. La consolation vient avec les afflictions. Elles ne sont pas séparées l'une de l'autre. Et donc c'est très personnel. Mais il y a une autre relation ici que je veux souligner. Il y a cette relation très personnelle entre moi et Dieu. Mais est-ce que vous avez noté qu'il y a cette relation personnelle avec moi et les autres? Regardez les deux mots qui suivent là au verset 4. Il nous console dans toutes nos afflictions afin que... Donc il y a un but ici. L'expérience personnelle de la consolation divine a un but. La consolation dans l'affliction a un but, une raison d'être. Béni soit Dieu, je commence maintenant au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler qui? Ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc il faut imaginer trois groupes ici. D'abord, il y a Dieu, et puis il y a moi ici. Et Dieu me console, il m'envoie des afflictions et il console. En fait, ça garde cette relation très proche à mon Dieu. La consolation que je reçois de lui. Mais il y a un troisième groupe, il y a les autres. Et tout cela a à faire avec les autres. Est-ce que vous savez que vos afflictions ont pour but, en fait, d'avoir un effet sur les autres? Sur les autres. Afin qu'ils aussi soient consolés par la consolation que vous recevez dans votre affliction. Donc nous ne sommes pas que les bénéficiaires, il dit ici que nous sommes l'objet de la consolation, mais il ne devient pas l'objet, mais après il devient le sujet de la consolation, ou au moins le canal de la consolation, si ça vient toujours de Dieu, mais il va consoler après les autres. Il redit la même chose dans les versets qui suivent, regardez les versets 5 et 6. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc Christ nous console abondamment. Si nous sommes affligés, c'est pour, qu'est-ce qu'il dit là ? Votre consolation. Vous voyez, Paul, il dit, nous sommes affligés, mais c'est pour vous. Pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, ça aussi, c'est pour quoi ? Votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et là encore, nous voyons que la consolation n'est pas l'absence d'affliction, mais la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ça, c'est la consolation. La consolation, en fait, devient cette patience à supporter. Donc, vous voyez, c'est très relationnel. Nos souffrances sont très relationnelles pour nous garder en lien avec le Seigneur, mais aussi pour nous garder en lien avec les autres. Pourquoi ? Une raison, je crois que vous serez tous d'accord avec ça, c'est que Dieu veut des témoins de sa consolation. Il aurait pu envoyer des anges, mais il veut des témoins, des gens qui ont eux-mêmes reçu et connu la consolation divine, qui apporte maintenant cette consolation à d'autres. Et vous savez tous, si vous avez un cancer, si vous avez une maladie, si vous avez une expérience difficile dans la vie, il y a tout de suite un attachement avec quelqu'un d'autre qui a déjà marché par là, qui a déjà fait ce chemin, qui a déjà connu cette épreuve ou cette souffrance, parce qu'ils l'ont vécu. Et c'est du vrai, quoi, quand ils parlent. Ils ne parlent pas d'une théorie, ils parlent de quelque chose de vécu. Et Dieu veut, quand nous parlons de la consolation divine, que ce ne soit pas une théorie abstraite, voilà, on sait que Dieu, voilà, toute chose concourt au bien. Non, on veut pouvoir dire, je suis témoin dans ma vie que Dieu me console dans mes afflictions. Et c'est pour ça que quand il y a des pécheurs qui luttent avec leur péché, qui ont besoin d'un sauveur, nous allons vers eux comme des témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous pouvons dire, je suis aussi pécheur ou pécheresse, et j'ai trouvé un sauveur. Comme la femme samaritaine, quand elle va en ville, elle dit, voilà, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans la vie. Elle parle de son propre cœur et de ses propres expériences, et elle invite les autres à voir ce qu'elle a même, elle-même vécu. Et je crois que c'est très important pour notre témoignage aux autres de pouvoir parler du vécu, de ce que Christ a fait pour nous. C'est dans ce sens que nous sommes des témoins, pas parce que nous avons vu Jésus de nos yeux, mais nous sommes des témoins de ce qu'il a fait dans nos vies. Nous ne parlons pas d'une théorie quand nous parlons de Jésus, nous parlons d'une personne qui a agi dans notre vie et nous aidant les uns les autres. Et donc juste une application, c'est intéressant parce que ça a été déjà dit aujourd'hui, mais regardez le verset 8. Pour que ça marche, cette consolation, cette relation, il dit, nous ne voulons pas en effet que vous laissiez quoi ? Ignorez, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. Pour que tout cela marche, pour qu'on puisse consoler les uns les autres, il ne faut pas laisser les autres dans l'ignorance au sujet de nos quoi ? Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset ? C'est pas difficile par contre. Au sujet de nos afflictions. De nos afflictions. Ça, c'est pas toujours évident. Et bien sûr, il y a des moyens qui sont mieux que d'autres. Mais Dieu ne désire pas qu'il y ait des gens qui se referment sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes, qui ne partagent jamais leurs afflictions, parce que sans affliction, il n'y a pas de consolation. Et là, ils partagent avec eux, et ils veulent en fait qu'ils sachent à quel point ils étaient excessivement accablés, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Donc, je veux que vous sachiez, pour nous, on était morts. Et dans cette situation, Dieu nous a délivrés. Et donc, nous voyons la main de Dieu dans leur vie, et la consolation qu'ils ont reçue de la part de Dieu devient aussi notre consolation. Mais pour cela, il faut créer des amitiés, il faut s'ouvrir aux frères et sœurs. Ce n'est pas forcément devant toute l'Église qu'il faut dire ça, mais dans les relations que nous avons les uns avec les autres, il faut se parler de ces choses, parce que vous ne savez pas ce que l'autre souffre. Mais nous pouvons tous être certains que si je souffre et si Dieu travaille dans ma vie, c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Il faut en parler. Je peux encourager. Dieu a un ministère pour vous. Il n'y a pas d'épreuve qui n'a pas de but dans ce sens-là. Et je termine avec le verset 11, le dernier verset que nous avons lu. Parce qu'il y a un petit ajout ici que je trouve important. Vous nous assistez vous-même par de vos quoi ? Prières. De prières. Là, c'est vraiment ce qui nous unit les uns aux autres. On assiste les uns aux autres dans nos prières. Et puis, il dit par la suite, ce qu'il dit, c'est que donc, les réponses que nous recevons, soient pour vous tous qui avez prié, pour nous, une occasion de rendre grâce à notre sujet. C'est-à-dire, quand vous priez pour nous dans notre affliction, et puis Dieu répond, vous êtes poussés à glorifier Dieu avec nous. Et vous voyez les liens que ça tisse maintenant ? On a prié pour eux, Dieu a répondu, et donc on peut rendre gloire aussi maintenant à Dieu de sa réponse. Donc je vous encourage vraiment à tisser ces liens d'amitié et de famille et savoir que vous êtes utile et vos afflictions sont conçues par Dieu, non seulement à vous garder près de lui, mais aussi à créer des liens avec d'autres pour que vous soyez pas seulement l'objet de sa consolation, mais le sujet de la consolation, l'outil utilisé par Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, réfléchissez. Qui est-ce que vous pouvez consoler grâce à la consolation que vous avez reçue de Jésus-Christ ? Voilà, que Dieu nous aide à avoir ce ministère dans la vie des uns des autres. Jean-Pierre.